Extrait 1, où le révérend père Drummond visite les paroisses de la mission. Le village de Timbo commence à moins de 5 km de Mombé. Autant dire que les gens ici sont exactement les mêmes que dans le village précédent. Autant dire aussi que le RPS n'a même pas eu le temps de quitter sa crise de colère d'hier. Certaines déclarations du catéchiste de Timbo sont alarmantes au dernier point. À cette question que lui a posée le RPS, que pensent les gens en général, que disent-ils de la religion? L'homme a répondu, après avoir hésité longtemps, « Mon père, ils disent qu'un prêtre, ce n'est pas meilleur qu'un marchand grec ou tout autre colon. Ils disent que ce qui vous préoccupe tous, c'est l'argent. Un point, c'est tout. Vous n'êtes pas sincère, vous leur cachez des choses, vous ne leur enseignez rien. » « Moi, je leur cache des choses ?» s'est indigné le RPS. « C'est ce qu'ils disent, mon père. Qu'est-ce que ça signifie, mon Dieu ?»« Ils disent que ce n'est pas possible, » a repris le catéchiste. « Tu dois leur cacher quelque chose. » Et tous les blancs qui, à la ville, vivent en concubinage avec de mauvaises femmes, as-tu jamais été fulminé contre eux ?»« Bien plus. Tu leur touches la main, tu vas à leurs invitations, et c'est dans leur voiture qu'ils te reconduisent à Bomba. » Et cependant, tu voudrais qu'après le baptême, les Noirs cessent de fréquenter ceux des leurs qui ne sont pas chrétiens. Tu es même un homme très dangereux, car si l'on t'écoutait, les femmes quitteraient leur mari, les enfants désobéiraient à leur père, les frères ne se regarderaient plus, et bientôt, tout serait sans dessus-dessous. C'est ce qu'ils disent, mon père. Là, le RPS y restait silencieux. Il pinçait ses lèvres et tirait sa barbe.
Extrait 2, où Vidal, administrateur colonial, échange avec le révérend Drummond. Après un long silence, l'administrateur a dit: Mon père, si les Bantous adhèrent sincèrement au christianisme et de leur plein gré, le problème n'est-il pas résolu? Pourquoi vous tourmentez? Et où voulez-vous en venir? Il me semblait que vous aviez une bonne clientèle, non? Enfin, nous voici au cœur du problème. Détrompez-vous, mon petit Vidal, je n'ai pas une si belle clientèle. Voyez-vous, le problème qui me tourmente est celui-ci. Les quelques Noirs qui ont adhéré au christianisme l'ont-ils réellement fait de leur plein gré? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui donc les aurait contraints à adhérer à une religion? Tiens, c'est peut-être vous, monsieur Vidal, administrateur des colonies. Non, je vous en prie, ne nous querellons pas aujourd'hui. Je vous fais une confidence. Il n'y a que les gens de la route pour être bons chrétiens. Ceux d'ici sont absolument réfractaires. Eh bien, vous ne voyez pas le rapport? Ma foi, non. Monsieur Vidal a avalé son quatrième verre de rhum et il tirait sur sa cigarette sans cesser de dévorer le révérend Drummond des yeux. Je vais vous expliquer ça. Les gens de la route vivent dans une terreur constante. Je me tiens à l'expression. Quoique d'habitude, elles vous mettent hors de vous. Ils vivent dans une terreur perpétuelle à cause des réquisitions, des travaux forcés, des bastonnades, des tirailleurs. Croient-ils réellement ou se tournent-ils vers moi qui les console, sans jamais d'ailleurs pouvoir les protéger? Voilà la question qui me tracasse en ce moment. Ils se sont tus et ils se regardaient dans les yeux. Puis le jeune administrateur s'est écrié. « Mon père, vous avez bien dit, il n'y a que ceux qui habitent sur la route pour être bons chrétiens. C'est bien ce que vous avez dit. Oui, pourquoi ?» Réjouissez-vous, révérend Drummond, réjouissez-vous, et n'ayez plus de soucis. Vous l'aurez bientôt, votre route, votre clientèle. Réjouissez-vous, vous dis-je. Est-ce que vous déraillez? Écoutez, mon père, le voyage que je fais en ce moment ici précède de peu la mise à exécution d'un très grand projet. Nous nous préparons à creuser une route à travers le pays des Talas. Nous avons été autorisés à ouvrir le chantier aussitôt que nous le jugerons opportun. Ce n'est donc plus une question de semaine. Vous comprenez, un pays comme celui-ci, dépourvu de toute voie de communication, ça ne pouvait pas durer bien longtemps. Mon chef et moi-même avons dessiné un tracé approximatif sur la carte. En ce moment, je suis en train de voir ce que vaut ce tracé idéal compte tenu de la géographie réelle du pays. Et voilà, révérend Drummond. Intéressant, non? Oui, très intéressant.
Extrait 3, où Denis, le garçon de messe, et le narrateur reparlent de la route. Tiens, cette histoire de route, J'ai cru comprendre qu'on viendra les extraire de leur case, qu'on les courbera sous le soleil, qu'on les fera travailler du matin au soir à piocher, à remuer la terre sans arrêt. Ouais, je crois que j'ai bien compris. C'est certainement cela. Je savais bien qu'un jour Dieu les frapperait. Ouais, je commence à comprendre. Un malheur devait bien finir par leur arriver, tôt ou tard. J'ai vu creuser la route Mandingzomba. C'était terrible. Les gens travaillaient attachés à une corde qui s'enroulait autour de la taille du premier, allait s'enrouler autour de la taille du suivant, et ainsi de suite. Et les tirailleurs les surveillaient. Si quelqu'un tombait, ils lui faisaient claquer leur chicotte sur le dos, lui striaient la peau jusqu'à ce qu'il se relève et se tienne fermement sur ses pieds. Cette route, mon Dieu, pourvu qu'on la creuse, pourvu qu'on ouvre bientôt le chantier, on verra l'état là pleurer d'humiliation, de fatigue et de désespoir, comme pleuraient ceux qui ont creusé la route Mandingzomba. On les verrait pleurer de douleur, comme de pauvres femmes. On les verrait accourir vers le RPS, même ceux d'entre eux qui n'ont jamais voulu recevoir le baptême, exactement comme c'est arrivé parmi les hommes qui creusaient la route Mandingzomba. C'est étonnant combien les hommes peuvent avoir soif de Dieu quand la chicotte leur strie le dos. Ne t'en fais pas, Père Drumont, ne te tracasse surtout pas, ils te reviendront.
Cerdoi nonum Deus, ad omnipotentes, factorem celi eteram, visi filium omnius, et visi filius, et in nonum Domino Iesum Christum.
Extrait 4, où le chef du village, ivre, s'oppose au révérend Drumont. Le chef regardait toujours le révérend d'un air homicide, même ses hommes le tenaient fermement. Le révérend regardait aussi le chef, mais son regard à lui était dépourvu de haine, plein d'une pitié amusée. Les femmes et les enfants étaient revenus et faisaient cercle autour de nous, comme les chimpanzés qui reviennent toujours sur leurs pas afin d'identifier la nature de ce qui les a effrayés, du style courir un péril mortel. Nous sommes restés ainsi de longues minutes. Puis le révérend a parlé. « Moi, t'il dit, je ne suis pas un blanc pour vous. Je ne veux pas être un blanc pour vous. Simplement, je voulais vous faire comprendre que vous ne pouvez pas danser ainsi le premier vendredi du mois parce que Jésus-Christ, le chef, a ricané. Je t'en foutrais, moi, des premiers vendredis des mois et d'autres. Jésus-Christ, Jésus-Christ, encore un blanc. Encore un que j'aurais eu le plaisir à écraser sous mon seul pied gauche. Ouais, Jésus-Christ, est-ce que je le connais, moi? Est-ce que je viens de te causer de mes ancêtres, moi? Jésus-Christ, qu'est-ce que je m'en moque? Si seulement tu savais combien je m'en moque de ton Jésus-Christ, si seulement je pouvais te tirer les oreilles un moment et les rendre un petit peu plus rouges. Jésus-Christ, Jésus-Christ, vermine. Je crois qu'il était ivre. Il n'est pas possible de parler ainsi à l'état normal. Mais je ne suis pas venu dans ce pays pour les blancs. Je suis venu pour vous, pour les noirs. Les blancs, ça ne me regarde pas. Ils sont mauvais, les blancs. Ils iront en enfer, comme tous les hommes mauvais. Et nous, père, a demandé l'homme. Vous, a répondu le révérend, vous pouvez facilement aller au ciel. Vous êtes si près d'aller au ciel. Il suffirait de si peu de choses. C'est justement ce qui me met en colère. Il vous faudrait si peu de choses pour aller au ciel. Quoi, père? Ne plus danser, par exemple. Mais qu'est-ce que nous ferions, mon père, si nous ne dansions plus? Vous autres, vous avez des automobiles, des avions, des trains. Nous n'avons que cela, danser. Et vous voulez nous empêcher de danser? Qu'est-ce que nous ferions à la place? Vous pourriez prier Dieu, l'adorer. Ils sont restés silencieux et ils nous regardaient avec curiosité.
Extrait 5, où Vidal, l'administrateur et le révérend Drumont continuent leurs échanges. Écoutez mon père, je vais vous le dire. La condamnation que vous venez de prononcer nous atteint aussi, nous, fonctionnaires coloniaux, héritiers de Féderbe et du grand Savornien de Brazza. Car si la religion chrétienne n'a pas de sens ici, il y a fort à parier que la civilisation que nous voulons y implanter est absurde sous ce soleil. Voyez ce que je vous ai toujours dit. Nous nous retrouvons dans le même panier. J'ai donc dit qu'une sottise que vous riez tant. Mon père, pourquoi n'essayez-vous pas de m'expliquer une bonne fois les rôles respectifs, selon vous, de l'administrateur et du missionnaire? pourquoi n'essayez-vous pas de me dire en quoi il s'oppose à mon père? Pourquoi ne le faites-vous pas? Fût-ce simplement pour me rendre service. Le RPS a dit, je ne peux pas le formuler ainsi dans l'abstrait. Je vous ai dit que tout cela n'était pas encore très clair dans mon esprit. Je m'aperçois que ce que j'aurais dû faire, c'est tenir un journal extrêmement minutieux depuis mon arrivée ici. Peut-être, en juxtaposant les faits, en les étudiant, pourrais-je aujourd'hui bâtir une petite théorie. Il s'est tu. La joue appuyée sur sa main gauche, l'œil fixé sur la table, il griffonnait des caractères indéchiffrables sur une feuille mécaniquement. Voyez-vous, a-t-il repris, je ne pourrais même pas vous raconter ma vie. Je ne sais pas, il me semble parfois que je ne vois plus très clair, que je deviens presque ma boule. Oh, ce n'est pas le climat, non. Je suis partie de France, animée par une ardeur d'apôtre. Je n'avais qu'une idée en tête, qu'une ambition dans mon cœur, étendre le règne du Christ. L'Europe rationaliste, scientiste, pleine de morgue, trop consciente, m'écœurait. Je choisis les déshérités, du moins ceux que je prenais pour tels. J'étais un naïf. Car les vrais déshérités, est-ce nous ou eux? À mon arrivée dans ce pays, il y a une vingtaine d'années, le Christ n'y était pas totalement inconnu, les missionnaires allemands nous avaient précédés. J'ai trouvé une population prête à m'écouter avec complaisance, attentive jusqu'à l'obséquiosité. Je me suis livrée au prosélytisme, je ne me suis pas posé de questions. L'extraordinaire attention qu'ils montraient, je l'ai prise pour le besoin du Christ. Leur extraordinaire docilité pour la complaisance que doit témoigner quiconque découvre le Christ. À aucun moment, je n'ai pris conscience que je me trouvais dans un pays colonisé, ni que des populations colonisées pouvaient présenter certaines caractéristiques spéciales. J'étais en présence de gens qui obéissaient au moindre signe de mon petit doigt. Je me suis mis à jouer les autocrates, je commandais, ils exécutaient. J'ai édifié des écoles, des églises, des maisons, presque une ville, la mission catholique de Bomba. Je ne me demandais guère en quoi toutes ces réalisations extérieures concernaient le Christ. Bref, je me suis institué administrateur, comme vous, monsieur Vidal. Oui, comme vous. Cela a duré longtemps.
Extrait 6, où Vidal et Drumont font leurs adieux. Eh bien, mon vieux, attendez d'être gouverneur général. Vous ferez alors nommer chef de service au ministère des colonies. Pas de commission pour votre père? Papa, je vous demande pardon, mon père. Oh, mais il n'y a pas de quoi. Papa, oh celui-là, c'est bien sa faute si je me trouve dans cette poisse aujourd'hui. Un vrai maniaque de la colonisation, celui-là. Et en chambre, s'il vous plaît. Tous les petits gars qui étaient allés rouler leurs bosses ou balader leurs mousquetons sous les tropiques, ils connaissaient leur nom par cœur. Les chevaliers de la civilisation qui les appelaient. Les commis voyageurs au long cours, oui, disait ma mère pour le contrarier. Et Vietnam par-ci, et Sénégal par-là. Je n'avais aucune défense, moi. Alors vous comprenez, forcément, qui vous oblige à rester ici. Et qu'est-ce que je ferais en Europe maintenant, sans spécialisation? Sans compter qu'après avoir goûté à la puissance, je la trouve plutôt délicieuse. Et puis tenez, ça me fera une belle expérience. Rien pour votre mère? Vous ne la verrez pas, mon père. Excusez-moi, pourquoi? Elle n'est pas morte. Simplement, ils sont divorcés, elle est en province, dans l'Est. Allons-nous manger bientôt? Non, mon père, je vous demande pardon, mais il faut que je m'en aille. Bon voyage. Vous ne nous oubliez pas, écrivez-nous et tenez-moi au courant de vos études. Je n'y manquerai pas, mon petit Vidal. Bon courage, ne vous encanaillez pas trop, ne vous isolez pas trop non plus. Adieu, mon père. Si je viens en France, je passerai vous voir. Au revoir, monsieur Vidal.
Extrait 7, où le révérend Drumont interroge Catherine, pensionnaire de la SIXA. Si tu me pousses à bout, je vais te faire administrer une de ces bastonnades. Tu t'en souviendras toute ta vie. C'est que elle avait la maladie, père. La maladie? Oui, père, la maladie. Quelle maladie? Eh bien, la maladie, père. Nom de Dieu, quelle race! Elle n'a pas un nom, cette maladie? Si. Lequel? Mais, père, vite, mon père, parleras-tu à la fin? Tu veux donc me pousser à te faire tuer? Oh non, c'est la quoi ? Mais la syphilis, père. La syphilis ? Tu l'as aussi ? Non, père. La syphilis ? Pourquoi ne le disais-tu pas ? Mais père, quand on dit la maladie, c'est toujours la syphilis qu'on veut désigner. Oui, c'est vrai. Où est-ce qu'elle l'a contractée ? Dans ma sixa ? Je ne sais pas, père. À ton idée ? Ici. La syphilis dans ma sixa ? Un comble ! Tu es bien certaine que c'est la syphilis qu'elle a, cette fille ? Il paraît. Moi, je suis nouvelle venue dans la maison, père. C'est seulement ce qu'on m'a dit. Le RPS s'est essuyé le front avec un mouchoir. Le vicaire, qui un instant plus tôt souriait encore, à moitié, s'était rembruni. « Regarde la chicotte, » a dit le RPS. « Tu vois cette chicotte ?»« Oui, père. Je t'ordonne de me dire le nom de ton ami. »« Le nom de mon ami, père ?»« Oui, cette fille qui te rapportait tout. » »« Elle savait tout, mon père, parce qu'elle était plus vieille que moi, la Sixa. »« Son nom. Je veux son nom. »« Est-elle déjà mariée ?»« Non, père. »« Elle est donc toujours la Sixa ?»« Oui, père. »« Son nom. » Marguerite, père. Marguerite, Marguerite, il y en a des millions de Marguerite à travers le monde. Marguerite, tu veux donc me faire crever de colère ou tu veux la chicotte ? Marguerite qui ? Annaba. Marguerite Annaba.
Extrait 8, où la Sixa se révèle être un bordel. Elle a repris. Puisque tu veux le savoir, toutes les femmes de ta Sixa couchent avec quelqu'un. Toutes, m'entends-tu ? Toutes ! Et plutôt avec deux hommes qu'avec un. Et cette syphilis, c'est ton boy qui l'a propagée. Oui, ton premier boy, parce qu'il passait d'une femme à une autre. Naturellement, il n'a jamais avoué souffrir de la syphilis. Et le catéchiste Raphaël provoquait, nouait, dénouait ses liaisons à son gré, parce qu'il en tirait profit. Parce que les gens qui avaient des petites amies à la Sixa lui payaient de l'argent. Et le Raphaël, lui-même, couchait d'abord avec nous, avant de nous accorder à d'autres. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre de Raphaël, dans son lit, avec lui. Pourquoi n'interroges-tu pas le Raphaël ? Il te révélerait tant de choses. Et combien d'argent il a touché grâce à ses sordides intrigues ? Et combien de femmes sont parties de la Sixa, enceintes au moment de leur mariage, par ses œuvres ? Ou celles de ses clients ? Et quels étaient les noms de ses clients les plus fidèles ? Pourquoi ne le fus-tu pas bâtonné, hein ? Pourquoi ne l'interroges-tu pas ? Assez, a hurlé le révérend, les cheveux dressés, les joues rouges.
Extrait 9, où Denis, le narrateur, réalise le départ de Drummond. Voilà, c'est fini. Il est réellement parti. Je ne le reverrai plus jamais. Je n'arrête pas d'en pleurer. Le RPS, ça n'est vraiment allé. Ouais, c'est à peine croyable. Ce soir, c'est dans mon village natal, dans la case de mon père, que je fais mon examen de conscience. Jamais plus l'on ne reverra le RPS à Bomba. Cette mission qu'il avait fondée, sa mission. Que de gens ont pleuré ce matin. Nous n'étions peut-être pas bons chrétiens, mais nous aimions bien le RPS. Et beaucoup de gens, hommes et femmes, l'ont prouvé ce matin par leurs larmes. Oh, j'ai appris qu'il venait de commencer le creusement de cette route dont parlait si souvent M. Vidal et qui doit traverser le pays des Talas. Il paraît que c'est terrible. On réquisitionne jusqu'aux femmes pour le chantier. Le bruit court même qu'ils viendront chercher des gens jusque chez nous. Nous qui avons déjà creusé notre route. C'est injuste. Ceux de chez nous protestent d'avance et affirment qu'ils ne se laisseront plus réquisitionner. Mais comment pourrons-nous résister aux miliciens de la subdivision ? Ils me prendraient certainement aussi malgré mon jeune âge. Mon père dit que c'est dangereux pour moi de rester à Sogolo. Je pense à ce que me confie un soir le cuisinier adjoint Anatole. Aller à la ville et chercher une petite place de boy chez un commerçant grec.